Who has a question about Barnabas?
Qui a une question concernant Barnabas?
Yeah.
Merci beaucoup, Dadi Théodore. J'ai déjà eu une partie de la réponse à ma question, mais j'aimerais avoir une idée plus précise. Barnabas nous a été montré comme quelqu'un de bon, rempli du Saint-Esprit, qui a servi les apôtres qui étaient au-dessus de lui, qui a servi Paul qui était en dessous de lui. Mais justement, on voit comment, quand il se séparait de Paul, l'Église a recommandé Paul. Et on a vu comment Paul justement a écrit beaucoup de livres dans le Nouveau Testament, ainsi de suite. Et on ne parle plus de Barnabas. Je me demandais, est-ce que ça montre que Barnabas a échoué à la fin? Ou bien, comme il avait déjà fait ce pourquoi il était là, ça a dit qu'il était peut-être là seulement pour élever Paul. Donc dès qu'il avait déjà élevé Paul, ça n'a pas été fini. Puis Dieu l'a mis de côté. Bon, tu as répondu en disant que Dieu voulait qu'il y ait appariement. Et dès lors que les deux ne travaillent plus ensemble, on ne parle plus de Barnabas, mais Paul aussi, dans son ministère, il y a des problèmes. Mais ce que je voulais, jusque-là, je voulais savoir, est-ce que Barnabas, pourquoi on recommande, l'Église recommande Paul et Barnabas, on dit qu'il part tout seul. Comment comprendre vraiment cette situation-là? Alors que Barnabas a commencé très bien, il a fait beaucoup, beaucoup, mais finalement, il part, on dit que l'Église ne l'a pas recommandé, c'est Paul qui a été recommandé.
Dis-moi pourquoi. Non, parce que la Bible elle-même donne la réponse. Leur désagrément, leur désaccord était par rapport à un principe relatif à l'œuvre. Ce n'était pas leur personne qui était en jeu. C'était une décision qui était en jeu. Barnabas voulait amener quelqu'un qui était rentré avant. Paul a dit, amener quelqu'un qui nous a déjà abandonné veut dire qu'il ne prend pas l'œuvre au sérieux. Évidemment, l'Église... Barnabas a pris alors Marc pour aller là où ce n'est pas l'œuvre. Il s'est attaché à Marc, mais il n'a pas amené Marc pour rentrer dans l'œuvre. Paul a pris les autres pour rentrer dans l'œuvre. Donc on a prié pour lui pour aller dans l'œuvre comme on avait prié pour lui et Barnabas pour aller dans l'œuvre. L'Église ne prie pas pour les gens qui ont décidé de rentrer chez eux. Est-ce qu'on a besoin de recommander quelqu'un? On recommande les gens pour aller faire le travail que Dieu les a appelés à faire. Paul était en train d'aller faire le travail que Dieu lui a appelé à faire. Barnabas était en train de rentrer chez lui. Ce n'est pas que l'Église a préféré Paul, mais que Barnabas a décidé de se tenir avec Marc et d'abandonner l'œuvre et son appel. Le fait que quelqu'un a été bon ne veut pas dire que tout ce que la personne fait est bon. Donc le jour que tu rentres au village pour aller faire le funérail de ton père, sache que l'Église et nous autres, on va laver les mains sur toi. On ne recommande pas les gens pour rentrer chez eux. L'Église priait pour eux pour aller faire le travail de Dieu. L'appel était en public. Paul était en train de rentrer au travail. Barnabas a décidé de ne pas rentrer là-bas si Paul n'accepte pas qu'il amène Marc. Donc c'est Barnabas qui a posé des conditions et c'est Barnabas qui est sorti de l'œuvre. Et l'Église ne pouvait pas inventer une autre œuvre parce que c'est Dieu qui donne l'œuvre. Tu es satisfait? Ne rentre pas au village.
Alléluia. Oui, Daddy, ma question c'est de savoir, est-ce qu'il y a un moyen de reconnaître que peut-être que celui-ci c'est mon partenaire, donc c'est-à-dire, oui, mon âme sœur, est-ce qu'il y a un moyen de reconnaître ça dans l'œuvre?
Tu as bâti les relations avec qui?
J'ai bâti les relations avec Joël Onana, Ronald de Balou, William Fondou et plusieurs autres. Les gens que j'ai cités, c'est les gens. On faisait des disciples, donc autour de lui, on a bâti les relations.
Tu es en train de poser la question auquel on a répondu. Il a bâti les relations et c'est l'appel qui les a unis. Est-ce qu'on n'a pas dit ça? C'est l'appel qui les a unis. Ce n'est pas l'amitié qui les a unis. Donc, ton appel inclut qui? Ou bien tu es inclus dans l'appel de qui? Quand il fait jour, ne demande pas la lampe pour voir. Dis Amen. Les femmes d'abord.
Gloire à Dieu. Pendant l'enseignement, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand on donnait les caractéristiques, le profil caractéristique de Barnabas. Et on a dit que c'était un homme de bien. Et lorsque nous voyons sa séparation avec Saul, je me dis qu'il a vu en Saul, il a vu à Silas, comme il croyait aux hommes. Aux autres, pas aux hommes, aux autres. Certainement, il a cru en Silas, à Jean-Marc. Il a cru en Jean-Marc. Et maintenant, je vois maintenant un problème au niveau de nos capacités intrinsèques. Maintenant, ma question, c'est de savoir, pour éviter de sombrer dans ce genre d'erreurs de Barnabas par rapport à ce que nous savons faire et que nous faisons auprès des autres dans l'Église, comment faire?
Qu'est-ce que tu penses que Barnabas aurait dû faire?
Je me dis qu'il aurait dû oublier qu'il a ses caractéristiques et essayer d'écouter Saul, je me dis. Puisqu'il croyait à ce qu'il était, donc je me dis qu'il a
épuisé. Bonne réponse. Dieu l'avait appelé, Dieu avait appelé Saul, Dieu les avait appelés à deux par rapport à l'œuvre. Il a suivi ses élans naturels, son attache aux hommes, au lieu d'obéir à la volonté de Dieu. Il n'avait qu'à obéir à ce que Dieu veut, pas à ce que Paul veut. on évite d'être piégé par nos tendances naturelles en obéissant à Dieu. Tous les dirigeants ont des points aveugles. Tu vois, les yeux de l'homme-ci, il a des angles aveugles dans l'œil. Dans l'œil de tous les hommes, il y a ce qu'on appelle l'angle aveugle. Un point d'aveugle. Ça dit qu'il y a un point où si quelqu'un se positionne et les yeux sont tournés d'une certaine manière, ça ne peut pas voir. Tous les dirigeants ont des angles aveugles. C'est pour ça que c'est facile de tromper les dirigeants. Quand je suis devenu dirigeant, la femme de mon grand frère, qui est un consultant, expert en leadership, un expert consultant, on dit consultant, consultante en leadership, elle m'a appelé. Elle m'a dit que tous les dirigeants ont des angles aveugles. Et la meilleure façon de tromper un dirigeant, c'est d'être proche de lui. Et que les études ont montré que tous les présidents du monde ont échoué au travers de l'influence de ceux qui les étaient les plus proches. Ils les ont laissés diriger le pays au lieu de diriger. Dieu m'a dit, ils ont traité ces questions à droite, à gauche, et ils ont trouvé que un dirigeant ne peut pas savoir, parce que les gens qui l'aiment, quand ils parlent, ils sont en train de parler avec sincérité. Donc ce n'est pas de leur faute que la seule manière pour qu'un dirigeant ne sombre pas aux manipulations de ceux qui lui sont proches, c'est d'être fidèle à ses objectifs. Parce qu'on a tous besoin des hommes. On a tous besoin de l'intimité. On a tous besoin de gens avec qui on peut s'appuyer. Mais si tu oublies tes objectifs, tu vas finir, au lieu de diriger le pays, c'est les gens qui sont autour de toi qui vont finir par diriger le pays. Donc il faut que les gens soient fidèles à l'appel de Dieu dans leur vie. Parce que tous les dirigeants ont des points, des angles aveugles. Tu as compris?
Oui, vas-y.
Bien, merci. Ma question est celle de savoir comment est-ce que le Seigneur corrige cette erreur, cette absence de Barnabas dans le ministère de l'apôtre Paul. Puisque l'apôtre Paul était implantateur d'église et le frère Théodore a dit qu'il y avait l'absence du ministère de Barnabas dans les assemblées ou bien dans les églises implantées par l'apôtre Paul. Comment Dieu intervient-il pour corriger cette absence-là de l'abandon de l'œuvre par Barnabas dans le ministère de l'apôtre Paul? Et de nos jours, si nous qui connaissons ce problème, nous qui faisons face à ce problème dans nos assemblées ou bien dans l'église ou bien dans le ministère, que devons-nous faire face à cette situation? Lorsque tu connais que tu portes un ministère, mais ton ministère va avec le ministère de quelqu'un d'autre, c'est ton partenaire, vous êtes à deux, et demain cette personne est plus proche de toi. Que faut-il faire pour corriger cette erreur-là dans l'œuvre du Seigneur? Merci.
Ne romps pas alors la relation.
Comment ne romps pas? Monsieur, papa, comment ne pas rompre la relation puisque la personne peut-être pourra être appelée à aller au repos éternel avec le Seigneur. Et que faut-il faire là-bas, dans ce cas?
Finis la tâche que vous avez commencée ensemble.
À
Amen, merci.
Mais tu n'as pas constaté que je n'ai pas répondu à ta question. Comment est-ce que Dieu corrige? Qui t'a dit que Dieu veut corriger les responsabilités qu'il a placées sur nous? Il y aura un jour de jugement. Si Dieu prend la relève pour corriger les erreurs qu'on a faites, il va nous juger à base de quoi? Le jour de jugement veut dire que ce que Dieu nous a dit de faire, il n'avait pas un plan B. Tu échoues ça, il va te juger dans l'éternité par rapport à ça. Tu penses que Dieu va nous juger à base de quoi? Le jugement suppose qu'il y a la responsabilité, n'est-ce pas? La responsabilité veut dire qu'il n'y a pas d'alternative. Dieu te donne quelque chose, fais ça. Si tu ne fais pas ça, tu vas faire face à ton jugement. Avec des conséquences éternelles. Dieu a remplacé le péché d'Adam pour qu'il n'y ait pas de conséquences. Toi et moi, on n'a plus le diable autour de nous.
Si.
Oh. Adam a péché. Il a croqué le fruit. Le ciel a pleuré. La création a ressenti la blessure. Et on vit avec. Quand on est revenu de Bruxelles, j'ai dit au frère Martin qu'on doit accomplir le but qu'on a planifié à Bruxelles parce que c'était supposé être en 2015. 2015. Un jour, je suis parti à Douala et le frère Martin était content que l'église de Douala soit partie de 5 000 quelque chose à 7 000 quelque chose. J'étais fâché comme il n'est pas permis. Et le frère Martin me regardait un genre là. Il ne savait pas pourquoi j'étais si fâché. Je lui ai dit que il veut commencer à me mentir comme on a tous menti aux frères qu'on est engagé au but. Alors que chacun de nous sait qu'on ne va pas accomplir le but et personne n'est prêt à travailler. Et on se rencontre à Bruxelles, au Gabon, les gens dépensent des millions d'argent pour qu'on se réunisse là-bas pour mentir collectivement à Dieu qu'on va accomplir un but. Je lui ai dit que quand la date va arriver, je suis fatigué d'un CMC où les gens mentent en établissant les buts qu'ils ne veulent pas accomplir. Que quand on va avoir la convention, là, je vais lui déposer ma démission. Je ne veux pas diriger un peuple qui ment. Et j'étais sérieux. Quand je suis arrivé à Kinshasa, le Seigneur m'a demandé, qu'est-ce que tu as dit au frère Martin? Je lui ai dit que j'ai décidé que je vais démissionner. Il m'a demandé, qui t'a dit qu'on démissionne? Et il m'a demandé, tu avais posé la demande quand et où et chez qui? Qui t'avait embauché? Qui a le droit? À qui est-ce que tu vas déposer la demande ou bien la lettre de démission? Et la personne va prendre la place de Dieu pour t'enlever un appel que c'est Dieu qui t'a donné. Il m'a demandé, tu vas déposer la lettre de démission à qui? Même du point de vue humain, le frère Zach, ton père, qui t'a mis là-bas, par qui tu as été mis là-bas, il n'est plus là. Donc tu vas maintenant écrire la lettre, tu vas laisser ça à qui? Il m'a dit, tu es insensé. Il m'a dit, c'est toi qui t'amuses. Qui t'a dit que c'est les autres dirigeants qui sont à l'épreuve? C'est toi qui dois accomplir le but. Si certaines personnes ne veulent pas se tenir avec toi, trouve les gens qui vont te tenir avec toi. Mais coûte que coûte, le but doit être accompli. Amen. Il m'a dit, tu ne connais pas. Quand on donne à quelqu'un un appel, il meurt ou bien il vit avec. Si tu reçois un appel, tu vas mourir avec ou vivre avec. L'appel n'est pas un poste dans le gouvernement qu'on peut laisser et rentrer faire autre chose. L'appel de Dieu n'est pas comme ça. C'est pour ça que Dieu va juger les gens. Il va nous juger parce que les responsabilités qu'il donne sont irrévocables. Mais c'est une bonne question que tu as posée. Parce que la plupart des Camerounais ont une vie de dichotomie. C'est-à-dire qu'ils pensent que leur vie spirituelle est séparée de leur vie normale. Et qu'on peut abandonner. Que quand tu quittes la CMCI, tout ce que Dieu voulait que tu fasses, que tu fais dans la CMCI, reste là-bas avec la CMCI. Et tu es libre en basculant. Tu sautes juste dans une autre église et les appels changent. En tout cas, c'est les gens qui réfléchissent comme ça sont des idolâtres. Ils ont une idée de la localisation de Dieu. Donc, il y a le Dieu de la CMCI, localisé et enfermé dans la CMCI. Donc, quand tu abandonnes la CMCI, tu es libre de ce Dieu local. Mais ce n'est pas comme ça. On peut quitter la CMCI. Si Dieu t'avait appelé, on ne peut pas quitter l'appel. Il va te juger. Comme tu peux quitter ton mari, s'il te fâche, si toi tu te fâches, mais tu seras jugé pour le divorce. Il y a beaucoup de choses dont on est libre de faire et pour lesquelles Dieu est aussi libre de nous juger. Dis amen, non?
Amen, merci Daddy.
Oui, Mbeke.
Daddy, moi, j'avais une question au niveau du ministère de Barnabas et Paul. Au moment où Barnabas se sépare de Paul, il prend Jean-Marc, ils sont rentrés en arrière. Vous avez dit dans l'enseignement que Barnabas a imparti ce qu'il avait en lui dans la vie de Jean-Marc. Et juste comme Jean-Marc a écrit les épîtres de Pierre. Si je voulais savoir à ce niveau, est-ce que lorsque Barnabas était rentré en arrière, ça veut dire qu'il n'a pas arrêté le travail, il a continué le travail jusqu'à comme il a eu à former une personne.
Tu vois, si tu as l'aptitude, la capacité mécanique de comprendre et de saisir la mécanique, tu peux être soit un mécanicien au village, soit un ingénieur à l'université, soit quand l'aptitude est là, partout où tu te trouves, ça va se manifester. Mais quand Dieu t'a appelé à faire quelque chose et tu désobéis à Dieu, Dieu ne t'enlève pas tes dons spirituels. Est-ce qu'il a enlevé à Satan sa puissance?
Non, Daddy.
Satan est là en train de te tenter. Pourquoi Dieu ne... Il a désobéi à Dieu, n'est-ce pas?
Oui, Daddy.
Est-ce que Dieu lui a enlevé toutes ses puissances?
Non.
Mais Dieu va le juger. Il aurait pu utiliser toutes ses puissances pour servir Dieu au ciel. Mais il a décidé d'utiliser toute sa puissance pour s'opposer à Dieu. Et ça marche. Et Dieu va le juger. Donc, Barnabas a abandonné l'appel. Mais son don d'exhortateur, de quelqu'un qui encourage les faibles, qui rencontre les besoins ne lui a pas été ôté. Donc il a bâti Jean-Marc avec ses dons spirituels. Mais Dieu ne lui avait pas appelé à l'œuvre de bâtir Jean-Marc. Dieu lui avait appelé avec Paul à l'œuvre dans les nations. Donc il a réussi avec Jean-Marc parce que c'est un homme de bien. Mais ce n'est pas ça que Dieu lui avait appelé à faire. Dieu ne va pas le juger. Au lieu de bâtir un seul Jean-Marc, Dieu avait dans ses intentions qu'il bâtit beaucoup des églises, des multitudes qui sont pleines de Dieu. Donc quand on va arriver au ciel, Dieu va le juger par rapport à sa volonté pour lui, mais pas par rapport à ses dons. Quand quelqu'un est criminel, est-ce qu'il perd son intelligence? Hein? S'il voulait faire le bien, il allait toujours être intelligent, n'est-ce pas? Le problème n'est pas son intelligence. Le problème, c'est ce qu'il a décidé de faire. Donc, Dieu n'enlève pas les aptitudes. Les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Mais la manière dont on gère ça, si on utilise ça pour obéir à Dieu et servir Dieu, on est récompensé. Si on utilise ça pour désobéir à Dieu, on sera jugé. Il ne sera pas jugé pour avoir bâti Mac. Il sera jugé pour avoir abandonné l'œuvre auquel Dieu l'avait appelé.
Bon, Daddy, au niveau de la discussion entre Barnabas et Paul.
Ça va. Tu discutes avec qui maintenant?
Non, c'est une question, Daddy. Au niveau de la discussion entre Barnabas et Paul, au niveau, Paul ne voulait pas que Jean-Marc revienne dans leur groupe. Et si Barnabas acceptait que Jean-Marc ne revienne pas dans leur groupe, ça veut dire qu'il devait perdre alors Jean-Marc à ce niveau.
Quand va à l'école, choisis que tu seras un avocat pour le diable. C'est aussi une carrière, n'est-ce pas? Il ne fallait pas que Dieu laisse l'arbre dans le jardin pour que Adam soit tenté. Je ne sais pas si tu me comprends. Hein? Pourquoi chercher à défendre ce que la volonté de Dieu dit clairement n'est pas être la volonté de Dieu? Vas-y, rentre à l'école, fais le droit. Et quand tu sors quand tu vas finir, le jour où Dieu sera en train de juger Satan. Deviens l'avocat de Satan. Satan n'a jamais fait quelque chose qui est bien.
Il fait beaucoup de choses, des bonnes choses.
Oui. J'ai dit, pourquoi vous criez? Quand le diable te montre une mignonne fille, est-ce que c'est un mensonge? Est-ce qu'elle n'est pas mignonne? Est-ce que sa beauté change parce que c'est Satan qui te montre?
Non.
Ce C'est mauvais dans la fornication est mauvais parce que Dieu, ce n'est, Dieu interdit ça. Dieu veut qu'on épouse une femme. Ce n'est pas que si c'est dans la fornication, tu couches avec une fille, tu ne vas pas ressentir. Est-ce que quand c'est dans la fornication, on ne ressent rien?
On ressent la vie.
Tu as déjà fait. Sois calme. On t'a piégé. Merci de te trahir bien, mon fils. Yes.
Okay, there is a question here from one of our listeners online. Actually, there are two questions. The first question is, how and what can a man do to avoid the tragedy of Barnabas?
Why are they not asking, what, how and what can a man do to obey like Paul?
Okay. No, he's hearing you right now.
We are teaching, the Bible says these things were recorded so that we may not follow the errors of others.
La Bible dit que ces choses ont été écrites afin que nous ne puissions pas suivre les erreurs des autres.
We should carry our natural love, even our spiritual gifts, to the cross.
Il nous faut amener notre amour naturel et même nos dons spirituels à la croix.
The cross means neither going to the right nor going to the left.
La croix signifie n'aller ni à gauche ni à droite.
It means staying in the center of God's will.
Ça veut dire rester au centre de la volonté de Dieu.
The cross has nothing to do with bad or good.
La croix n'a rien à voir avec soit que ce, n'a rien à faire avec soit que ce soit c'est bon
la
ou bien.
La croix ne s'agit pas de.
La croix n'est pas une question de si c'est bon ou si c'est mauvais.
The cross has to do with obedience.
La croix a à faire avec l'obéissance.
Tu as dit ça agit et tout change.
La croix est une question d'obéissance.
The cross is a matter of obedience.
La croix est une question d'obéissance.
It has nothing to do with bad or evil.
Ce n'est pas une question de bien ou de mal.
We are to obey God.
Il nous faut obéir à Dieu.
If Barnabas, if we want to avoid the error of Barnabas, the answer is simple: obey God.
Si nous voulons éviter l'erreur de Barnabas, la réponse est simple: il faut obéir à Dieu.
And obeying God may mean that you wound your natural love.
Et obéir à Dieu pourrait signifier que tu blesses ton amour naturel.
Tu vas à l'encontre.
Que tu vas contre de ton amour naturel.
Obeying God may mean that you go against your spiritual gifts.
Obéir à Dieu pourrait signifier que tu vas à l'encontre de tes dons spirituels.
But obey him.
Mais il faut lui obéir.
Tell the person to write whether he has heard.
Yes. He wrote here, yeah, I'm hearing.
Yeah, good. Just obey the Lord, dear brother or sister.
Obéis juste au Seigneur, cher frère ou chère sœur.
What's the second question?
Okay. The second question. Could the apostles not have intervened so that such a loss is not in the work?
They were not in Jerusalem. They were not in Jerusalem. They were in Antioch.
Paul et Barnabas n'étaient pas à Jérusalem, ils étaient à Antioche.
And the United Nations had not been invented.
Et on n'avait pas encore inventé les Nations Unies.
for the brokering of peace.
Pour résoudre les questions de, pour résoudre, pour apporter la paix.
But beyond that, I think, why are so many people interested in that quarrel? The quarrel means that there are tensions about loyalty to the work, to the will of God, or loyalty to people.
Beaucoup de gens posent des questions autour.
Please.
Beaucoup de gens s'intéressent. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens s'intéressent-ils à la question de cette tension qu'il y a eu entre Paul, entre Barnabas et Saul? Cette tension, excusez-moi s'il vous plaît, cette tension indique qu'il y a
Just stop. Tu vois, quand tu es pasteur, tu vois des choses comme un pasteur, n'est-ce pas? Quand tu es dirigeant, tu vois les choses comme un dirigeant. Le pasteur voit les choses du point de vue des brebis. Le dirigeant voit les choses du point de vue du but. Le prophète voit les choses du point de vue de Dieu. Dieu nous a donné tous ces dons-ci pour qu'on sert, on le sert ensemble dans l'Église. Mais il faut que chacun de nous apprenne à écouter. Parce que on peut être en erreur même au travers de nos points forts. À côté de chaque montagne, il y a une vallée. On devait apprendre avec toutes ces querelles que les dons spirituels peuvent nous amener les divisions. Et ce qui doit résoudre, ce n'est pas le point de vue de Paul, ni le point de vue de Barnabas. Ce qui devait trancher était la volonté de Dieu était quoi? La volonté de Dieu doit être finale. Tantôt, ça peut justifier quelqu'un et on suit. Ask the person what he has said.
He said, thank you, Daddy.
Why didn't you read it aloud? This answering question to a faceless question. A faceless question. Our spiritual gifts can bring division.
Nos dons spirituels pourraient apporter des divisions.
So we must learn how to submit to one another.
Donc nous faut apprendre à nous soumettre les uns aux autres.
We must learn to discern the will of God and do it.
Il nous faut apprendre à discerner la volonté de Dieu et à la faire.
That disagreement should teach you another thing.
Ce désaccord devrait vous enseigner une autre chose.
That two people can be right.
Que deux personnes peuvent avoir raison.
Two people can be right and quarrel.
Que deux personnes peuvent avoir raison et se quereller.
Especially in marriage.
Surtout dans le mariage.
Many of us believe that if what I am saying is right, then the other person should listen. And then the other person believes that if what I am saying is right, then the other person should listen. But we have not realized, it takes maturity to realize that two of us can be right.
Plusieurs personnes croient que si ce que je dis est correct, alors l'autre personne devrait suivre. Et l'autre personne pense de la même manière que si ce qu'elle croit est correct, que si ce qu'elle dit est correct, l'autre personne devrait entendre. Mais il faut de la maturité pour se rendre compte que nous deux, on peut avoir raison.
Two people can be right.
Deux personnes peuvent avoir raison.
So we turn to God and do his will.
Donc nous nous tournons vers Dieu et nous faisons sa volonté.
Okay, so we have finished the questions.
Donc nous avons fini avec les questions.
S'il te plaît, Daddy, j'aimerais savoir si la vie de Barnabas n'a pas caractérisé celle de Paul. Donc, juste pour demander si quelques dons spirituels en Barnabas n'ont pas été impartis en Saul, pour que les églises qu'il a implantées soient typiques à celles qu'ils ont implantées à Antioche.
Tu es en train de demander si Dieu ne pouvait pas rendre Saul autonome.
En quelque sorte. Donc, ouais. je veux savoir si le ministère qu'ils ont accompli ensemble, si Dieu ne pouvait pas amener Paul à l'accomplir tout seul.
Pourquoi c'est Dieu qui a l'épreuve devant vous tous? Jojo, tu vois la mentalité. On est en train de développer la mentalité de l'hyper-pentecôtisme. C'est-à-dire que Dieu est censé travailler jusqu'à ce que l'homme n'a plus de responsabilité. Si l'homme défaille, il faut que Dieu comble les lacunes pour que son travail n'échoue pas. Ces pensées-là, je vais vous dire, ça vient du diable. Parce que c'est ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament. Vous ne mettrez pas l'Éternel, votre Dieu, à l'épreuve. C'est interdit de mettre Dieu à l'épreuve. Pourquoi vous êtes si téméraires? On a développé le parlement, on a développé toutes sortes de libertés et de l'humanisme. Et c'est facile de dire, si Dieu sait comme ça, pourquoi il ne sert pas de sa puissance pour faire comme ça et éviter ça, éviter ça? Est-ce que Dieu est à l'épreuve? Dieu n'est pas à l'épreuve. Ne mets pas l'Éternel, ton Dieu, à l'épreuve. Chacun de nous doit confronter ce que Dieu nous a dit de faire et obéir à Dieu. Je pense que j'ai répété ça plusieurs fois, mais on est en train d'éviter d'écouter ce qu'on doit obéir à Dieu. Mais cette mentalité, ça vient de loin. Et si vous n'abandonnez pas ça, vous allez tomber dans des hérésies. Parce qu'il y a beaucoup de hérésies. Mais beaucoup de hérésies qui dérivent de ces pensées-là. Une fois sauvé, toujours sauvé. Dès que Dieu t'a sauvé, quel que soit ce que tu fais, tu es l'un des élus et il va trouver des moyens pour te sauver. Si c'est la volonté de Dieu, ça va impérativement s'accomplir. Ça, c'est les tradis praticiens. Dieu avait dit à Jéroboam, je veux établir ton royaume comme le royaume de David. Un royaume éternel. Si tu marches avec moi comme David, on peut poser à Dieu, pourquoi tu n'as pas rassuré à ce que Jéroboam marche avec toi comme David. Dieu n'est pas à l'épreuve. Et il y a beaucoup de volontés de Dieu dans la Bible qui n'ont pas été accomplies. Parce que les gens ont désobéi. C'est pour ça que Dieu va juger. Dieu est le juge parce que les hommes lui sont redevables. C'est nous qui sommes à l'épreuve. Dieu n'est pas à l'épreuve. Si Dieu savait que l'homme allait pécher, pourquoi il a planté l'arbre même du tout? Si les gens posaient ces questions pour connaître Dieu, la réponse peut être très, très, très instructive. C'est que Dieu avait des grandes attentes de l'homme. Il ne voulait pas produire un robot. Et s'il n'y a pas la possibilité de choisir, il n'y a pas la possibilité de l'amour. Il n'y a que la possibilité de d'automate. Donc Dieu a créé la possibilité du choix parce que Dieu avait en vue la possibilité d'une relation. Sans ce commandement, sans la possibilité d'un choix, on n'allait pas avoir une relation avec Dieu. On allait avoir une dépendance de Dieu. Et on serait des automates. Et ce n'est pas ce que Dieu voulait créer. Mais toutes ces questions, c'est parce qu'on ne veut pas. Le pentecôtisme a amené les gens à vouloir écarter la responsabilité de l'homme. Et sans qu'on ne sache, c'est des invasions de la psychologie et de la psychiatrie. Dans l'évangile, on est en train de développer un évangile psychologique avec la science de la psychologie et de la psychiatrie. Quand quelqu'un est violent, on dit que ses parents ont tous les théories de Freud. Toute la philosophie de Hegel et toutes ces nombreuses choses qui déresponsabilisent l'homme. De sorte que l'homme n'est plus un être moral. Ça semble donner de la liberté, mais plutôt ça a servi l'homme au niveau d'un animal. Donc on revient dans la pensée de Darwin, qu'on n'est que des animaux. Sans volonté morale. Donc bien que ça peut être facile de faire comme si on n'a pas de responsabilité parce que Dieu est censé. S'il veut ça, il peut ça. Mais avec cette mentalité, tu deviens un chien. Parce que sans la volonté morale, tu n'es qu'un animal. Et toute l'éducation du monde tend vers ça. En se croyant sage, on est devenu des fous. Et on adore maintenant les animaux. On pense que ça donne la liberté. L'enfant, s'il n'est pas responsable pour ses actes, c'est ses parents qui ont créé les environnements pour que c'est le conditionnement de son enfance. Même l'homosexualité maintenant, on n'est pas responsable de ses actes. Parce qu'on n'a pas mis les impulsions. Hein? Non, on ne dit même pas que c'est une déviation. On dit que c'est une orientation naturelle. Donc on fait tout et tout pour déresponsabiliser l'homme pour qu'il ne soit pas un être moral. Avec des choix moraux. Et après, l'aboutissement de ça, c'est l'anarchie. Si ça me prend et j'ai l'orientation naturelle de couper les coups des gens, je coupe ton cou. Et on revient au jongle, n'est-ce pas? À la jongle. On n'est pas responsable de ses actes. Nous ne sommes que les créatures des instincts. Donc tout élan n'a ni la caractéristique de bien ou de mal. Tant que c'est des élans qui viennent de ton cœur, tu dois être vrai envers toi-même pour le commettre. Là, c'est ramener l'homme à être un animal. Et ce nouveau pentecôtisme que nous, on est en train d'embrasser là, les tendances évolutives, l'ingénierie de mots, la relativité des sens et des vocabulaires, on est en train de perdre notre identité en tant qu'être humain que Dieu nous a, que Dieu a créé. Mais s'il te plaît, mon frère, quand Dieu a parlé, obéis.
Amen. Amen.
Rien ne peut nous sauver du devoir d'obéir à Dieu. Pas toutes les philosophies de ce monde, pas toute la psychologie de ce monde. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Qui a lu ça? Je ne peux pas oublier ce passage. Parce que j'avais un brebis qui me rappelait ça toujours. Quand j'étais un jeune pasteur, il s'appelait Vandelin. Quand il a fait gaffe, et je le reproche, je dis, Vandelin, il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas faire ceci. Il va dire, oui, frère Théodore, je m'excuse, mais tu sais que la Bible dit, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Que je te parle comme Vandelin. Chacun rendra compte à Dieu.
Pour lui-même.
Tu es responsable de tes actes. C'est penser que Dieu doit chercher des moyens pour nous exculper des conséquences de nos actes. Ce n'est pas biblique. Parce que c'est pour créer un univers qui n'a pas de justice. S'il y a exculpation, s'il y a exculpation sans responsabilité, il ne peut pas avoir de justice. Parce que la justice veut dire qu'on est responsable pour ses actes. On est exculpé quand on a payé un rançon. Un équivalent pour réparer le dégât qu'on a créé. Et que c'est l'homme qui a créé ce dégât qui doit fournir la réparation. C'est pour ça que l'islam dit que Jésus-Christ ne peut pas pardonner au péché. Parce que c'est l'homme qui a péché qui doit fournir le contrepartie pour réparer. Mais Dieu nous a placés en Jésus-Christ. N'entrons pas dans la théologie musulmane. Je veux juste dire, l'homme est responsable. Un être responsable. C'est ce que ça veut dire qu'on a été créé à l'image de Dieu. Ne perds pas cette image.
Merci, Daddy.
Ok, mais ce n'est plus seulement à toi que je parle. C'est à nous tous. Parce qu'on déteste quand on parle de payer le prix. On veut. Si c'est la volonté de Dieu, pourquoi il ne nous donne pas? Il attend qu'on prie. C'est toute une mentalité. Est-ce que vous me comprenez? C'est toute une mentalité où Dieu est à l'épreuve. Et je veux que vous sachiez que c'est l'esprit de l'antéchrist. Et quand on commence déjà à penser comme ça, on est perdu. Parce qu'on va se révolter contre Dieu, contre sa justice. Et on va s'attendre à ce que si Dieu nous aimait, il devait annuler les conséquences de nos choix moraux. Qui me comprend? Beaucoup de gens ont développé ces mentalités. Et vous êtes à l'université, il faut que vous reveniez à la philosophie morale. À la responsabilité de l'homme. À la nature de la société. Si on veut être libre, on doit avoir des lois. Parce que sans loi, la liberté n'existe pas. Ça, c'est la thèse fondamentale de John Locke dans la philosophie morale. Il n'y a pas de liberté sans loi. Quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas la possibilité d'avoir la liberté. Il n'y a que le libertinage. S'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de barrières, s'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de route. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des routes quand on n'a pas défini de frontières? Il y a route quand il y a des frontières. Tu ne peux pas aller à gauche comme tu veux et tu dis que tu es en route. C'est parce qu'on a démarqué des limites. Et s'il n'y a pas de limites, il n'y a pas de maison. Ce qu'on appelle les murs là. Appelle ça prison, appelle ça être cagé, mais ça nous donne la sécurité. On peut dormir sans avoir peur de serpents. Dis amen.
Amen.
On a besoin de murs, on a besoin de routes, on a besoin de frontières, on a besoin des horizons, on a besoin de barrières, on a besoin de freins, on a besoin de lois, on a besoin de règles pour être des hommes libres. La liberté, c'est un état de celui qui a choisi le bien. Être dans l'incapacité de choisir le bien, faire de toi un animal. Pas quelqu'un de libre. Comment prie? Je ne sais pas ça. Les questions ici me montrent l'invasion de beaucoup de, d'une mentalité. There is a growing an insidious rebellion against God.
Il y a une rébellion insidieuse contre Dieu.
There is an increasing revolt against God.
Une révolte croissante contre Dieu.
We don't want to pay any price.
Nous ne voulons pas payer de prix.
We want to put God's love to the test.
Nous voulons mettre l'amour de Dieu à l'épreuve.
If he loves us,
s'il nous aime,
let him save us from the moral consequences of our own choices. That's what we understand as forgiveness.
Qu'il nous sauve des conséquences morales de nos choix. Ça, c'est ce que nous comprenons comme pardon.
It is a sin.
C'est un péché.
We are not to put the Lord God, our God, to the test.
Nous ne sommes pas supposés mettre l'Éternel, notre Dieu, à l'épreuve.
His love is not on trial.
Son amour n'est pas à l'épreuve.
And even I, as a leader, I suffer a lot from it.
Et même moi, en tant que dirigeant, j'ai souffert beaucoup de cela.
Because there are many people who put me on trial.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me mettent à l'épreuve.
Their father dies, they are waiting to see whether I will call or send support so that they may be able to say whether I am a good leader and I love them or not.
Leur père meurt, ils attendent voir si je vais les appeler ou leur envoyer du secours pour savoir si je suis un bon dirigeant ou pas.
If I send love,
si j'envoie l'amour,
I have proven something.
J'ai prouvé quelque chose.
But that is not love.
Mais ça, ce n'est pas l'amour.
If I'm not free to call or not to call,
si je ne suis pas, suis pas libre d'appeler ou de ne pas appeler,
then I'm not loving.
Alors je ne suis pas en train d'aimer.
And there are too many of such things.
Et il y a beaucoup de choses de ce genre, trop de choses de ce genre.
And many of you are in that state.
Et plusieurs d'entre vous sont dans cette condition.
You have no relationship, you cannot love because the only love you understand is testing people.
Tu ne peux pas aimer.
Vous
ne pouvez pas aimer parce que tout
Stop. Come on, pray.
Gorgo baka santa rekata kabaka sorgo baka rakata rakabaka rakata. Roko baka raka baka roko toko baka raka baka roko baka raka baka. Horogo baka raka baka roko baka raka taka baka koroko baka. Roko toko baka raka baka roko baka raka baka. Rokotoko baka raka baka roko baka raka. Rebaraka baka santa reka raka baka. Kalaka baka joroko baka rikata baka roko baka. Rikaraka baka rokotoko baka raka baka raka baka. Horoko baka laka baka roko baka. Roko roko baka raka. Rokotoko roko baka. Rokotoko roko baka raka. Rokotoko roko baka rakata. Rokotoko roko baka rakata kabaka. Horokotoko baka raka baka. Seigneur, viens, aide-nous. Aide notre génération, Seigneur. Ô Père éternel, notre Dieu, c'est vrai. Nous prenons pour la plupart l'irresponsabilité. Nous avons choisi la voie de l'irresponsabilité. Comme cachette. Et de la sorte, nous t'avons mis à l'épreuve à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Estimant que dans ta toute puissance, tu aurais pu empêcher, ne pas permettre. C'est vrai que cela est courant dans notre façon de penser, dans notre façon de voir, dans notre façon de faire. Et éternel notre Dieu, tu nous dis ce matin que cela vient de l'Antéchrist. Et je viens crier, Père, pendant que tu t'adresses à nous, que tu aies pitié, Seigneur notre Dieu. Que tu aies pitié, Seigneur. Et que tu nous aides, que tu nous aides. Père, nous voulons être déprogrammés. Nous voulons être déprogrammés pour revenir à ton univers moral. Celui de la responsabilité. Celui de la responsabilité individuelle. Je veux avouer, Père éternel, que j'ai moi-même été secoué lorsque le frère Théodore a dit: lorsque Dieu te donne une chose à faire et que tu ne le fais pas, n'attends pas qu'une autre personne puisse faire la chose. Tu en rendras compte au tribunal de Christ. Et c'est pour cela qu'il y a un tribunal. Seigneur, je prie que chacun d'entre nous soit saisi par cette vérité et que, Père, un élan de responsabilité embrase chacun de nos cœurs. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, nous revenions à l'univers moral normal dans lequel tu nous as créés, où tu nous as créés et nous as donné la liberté de choisir afin d'être responsable du choix que nous faisons. Père éternel, corrige nos déviations intérieures. Seigneur, corrige nos déviations intérieures. Aide-nous, Père. Aide-nous, nous ne savons pas à quel niveau, éternel notre Dieu, nous nous sommes laissés emporter par les tendances mondaines actuelles. Nous voulons que tu nous aides, que tu stoppes, Père éternel, notre Dieu, cette déchéance morale. Père, je prie que chacun d'entre nous à son niveau travaille pour stopper cette déchéance. Et Père éternel, notre Dieu, pour se lever et être ce que tu as voulu qu'il soit. Un être responsable, un être au-dessus de l'animal. Parce que en même d'assumer ses choix. Au nom de Jésus. Amen.
Father, thank you because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Thank you for the questions, the controversial questions that have been raised. And thank you for the answers that have been given. So that the darkness of heart, the errings of hearts, may be corrected, and that we may come back to you, the true God, the living God, the God who is judge. We pray, O God, that as a result of the interactions, the questions and the answers, that there will be a new knowledge of God imparted to the youths gathered here, a new fear of God, a new sense of responsibility, with respect to choices, with respect to responsibilities, with respect to obedience, with respect to obedience to God, to the word of God, and to the things we know that God has asked us to do. We pray, O God, that a laissez-aller attitude towards God, towards God's word, towards the work God has called us into, will be abandoned, and that there will be a sense of responsibility on every youth leader here, and the prospective youth leaders, that they may know the God who has called us into his work, who is the same yesterday, today, and forever. Lord, the way you treated Adam, Lord, is the way you treat every servant who comes to you and becomes irresponsible. We pray, oh God, that besides just being robots, we take on a responsibility to fear God and to serve God with love. Convert all who are here and all who are receiving this message and all who receive this message with the knowledge of the God whom we've been called to serve. So our service of God will be joy, will be a service of hope.